Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire, l'Ordre National des Experts Comptables d'Île-de-France. Un grand merci à eux. Donc, notre invité, enfin, le tant attendu, l'immense, le grand, l'unique, le Jean Bastier. Le Jean Massier, c'est bonsoir, sympa de te recevoir sur Twitch, sur Backseat.
Bah, ça fait plaisir d'être invité de Backseat.
Merci d'avoir accepté cette invitation, oh, Jean.
Je t'en prie, Léa.
Vraiment, c'est cool de parce qu'en fait, nous, on est un peu comme toi. On parle de politique sur Twitch.
Non, c'est pas... une super émission que vous faites. Hein.
Ouais, tu regardes parfois.
J'aime bien, je regarde de temps en temps. Ouais.
Ok.
Ça m'arrive.
Ok, c'est quoi ton rapport à la politique?
Compliqué.
Je comprends. Alors, bon, Jean Massier, comment le présenter? Faut-il encore le présenter, d'ailleurs? Bon, on va faire quand même un petit... On va pas dérouler ton CV en intégralité.
Oh là non,
ce qui est des choses que tu n'as pas forcément envie de partager avec
tout
le monde.
Tout, ça, je m'en fous.
Tu es créateur sur Internet, on peut dire ça comme ça.
Ouais.
Tu es, d'ailleurs, l'un des principaux créateurs sur Internet de politique, de contenu politique, visée pédagogique.
Peut-être, je sais pas sur quelle métrique on se base pour dire ça, mais peut-être.
Comment tu te définirais précisément?
Moi, je suis streamer. J'ai toujours dit que j'étais streamer. Je me définis par l'objet que je produis. Ce sont des streams, donc je suis streamer. Après, si on veut me dire journaliste, eh ben, je m'offusque pas. Ça me va. Je me revendique pas journaliste. Mais on peut me dire journaliste. Et puis sinon, ouais, créateur de contenu, oui, ça a du sens.
T'as été
vulgarisateur
quand même. Vulgarisateur politique, mais il faut quand même le dire. T'as été un des premiers à parler de politique sur Twitch.
Ah, ça, pour le coup, j'étais vraiment le premier.
Le premier,
époque, 2015,
le premier.
À une époque, ouais. Twitch ne ressemblait absolument pas à ce que c'est aujourd'hui.
C'était un sacré pari, quand même.
Oui, une sacrée connerie, c'est deux manières de voir les choses. Hein. Mais, 2015, ouais, mon entourage a fait une drôle de tête quand je leur ai annoncé que j'allais commenter les questions au gouvernement sur Twitch.
Tu faisais quoi à l'époque? Avant de te lancer.
J'étais au cabinet de Marisol Touraine.
Excellent endroit.
C'est un running gag.
Beaucoup de gens.
Comme d'éminents politiques l'ont été, semble-t-il.
Ah oui, bah, t'as un avenir politique, c'est sûr.
J'étais collègue avec Gabriel Attal. J'étais au cabinet de Marisol Touraine. Et j'ai pas du tout eu le même parcours que Gabriel Attal.
T'étais collègue avec Gabriel Attal.
Et Benjamin Griveaux, non?
Non, j'étais après Benjamin Griveaux, moi. Il était déjà parti.
Non mais attends, faut que tu balances un peu là-dessus quand même.
Mais j'ai rien à balancer.
Non, j'ai pas balancé, mais tu m'en. Enfin, tu
j'ai pas eu l'occasion de sympathiser avec Gabriel Attal. On était collègues et on n'était pas proches, on n'était pas potes. On l'est pas devenu. On est resté cordiaux. On est resté en contact de très très loin.
Genre Gabi du 3e.
Genre oui, c'est ça, SMS par an pour dire comment ça va. Et puis ça s'arrêtait là.
Vous déjeuniez ensemble parfois?
Non, jamais.
Pas de pause club après.
Non, il fumait pas.
Ok.
Il avait pas le temps. Hein.
Bah non, c'est sûr. Ouais. Et puis c'est pas bien. Donc forcément, c'est sûr. Donc tu lances ta chaîne sur Twitch en 2015.
Ouais.
Qui s'appelait à l'époque Acropolis déjà.
Même pas encore. C'était avant Acropolis. Ça s'appelait La Vie Publique. Alors l'anecdote, je l'ai déjà racontée plusieurs fois.
Sauf que La Vie Publique.
La Vie Publique, c'était le nom de ma chaîne Twitch. Et le problème, c'est que viepublique.fr est un site et une marque déposée et possédée par l'État. Mmh. Et donc moi, petit streamer à 5 viewers à l'époque, j'ai reçu un courrier à en tête service du Premier ministre.
Qui n'était pas encore Gabriel Attal.
De mise en demeure, de cesser l'utilisation du nom La Vie Publique et tout.
Oh,
donc j'étais mort de trouille. Donc j'ai hésité à pas respecter le courrier et tout, puis je me suis dit qu'en fait j'avais juste pas les moyens de me battre contre l'État français, faut pas déconner. Donc j'ai changé de nom et c'est devenu Acropolis.
C'était un moyen de te faire taire.
Mais si ça se trouve c'était une forme de censure. Ouais.
C'est sûr. Ouais. Ouais. Toi tu t'es là, bon ok très bien, bah, je vais continuer.
Et après ça s'est appelé Acropolis, qui était un projet. Acropolis c'était un projet de web TV hyper ambitieux, beaucoup trop ambitieux d'ailleurs.
Que je regardais.
Tu regardais toi Acropolis?
Quand je bossais à l'Assemblée, j'étais que la parlementaire.
Et il y en a pas mal qui regardaient,
On était pas mal à regarder, genre à se refiler le petit mot, à regarder, etc.
Ouais.
Et ensuite, quand on allait expliquer à nos patrons respectifs députés, généralement qui avaient plus de 50, même plus de 60 ans, leur expliquer qu'il y avait quelqu'un qui commentait les questions au gouvernement sur Internet, c'était du sport, tel qu'à dire.
Carrément, à l'époque, il y avait deux séances par semaine, mais il y a à nouveau deux séances par semaine depuis quelques semaines, là. Mais j'ai commencé en commentant les questions au gouvernement de la même manière qu'on commente une partie de jeu vidéo. Alors moi, j'utilise parfois l'expression du match de foot, mais en fait, je regarde pas le foot, je m'en fous. Moi, ça a toujours été le jeu vidéo, mon truc.
Ouais.
Et il se trouve qu'il y avait sur Twitch des gars qui commentaient des jeux vidéo que je connaissais pas, mais leurs commentaires me faisaient rester. Parce que, je sais pas, j'étais pris dans l'énergie. Et donc, j'ai simplement copié ça. avec la politique en disant mais en fait je vais simplement commenter les questions au gouvernement, parce que j'avais bien un truc que j'avais compris, c'est que moi je fais partie du landerneau politique parisien, je connais l'Assemblée nationale et je sais comment ça marche. 99,9% des Français ne comprennent absolument rien à ce qui se passe à l'Assemblée. C'est quoi un député, c'est quoi un ministre, pourquoi le mec il est en train de parler, pourquoi est-ce que le micro il se coupe, comment ça se fait qu'il y a des applaudissements à ce moment-là, etc. C'est absolument incompréhensible, ça fait à peu près 30-40 ans en France qu'on diffuse à la télévision les questions au gouvernement sans les commenter, en croyant que ça va accompagner les Français et les rapprocher de leur Parlement, ça fait exactement l'inverse. Mmh. Les Français sont malheureusement de plus en plus anti-parlementaristes.
Donc voilà. C'était ton ambition première, en fait, c'était d'expliquer la vie parlementaire, notamment la vie politique.
Ouais, la vie politique institutionnelle, ouais,
la rendre palpable, la rendre accessible. Et du coup, tu te dis, bon, bah, très bien, mais je vais aller encore plus loin. C'était pas assez, encore, Acropolis, quand tu lances Jean Massier et ensuite, dans la foulée, Baxit.
Non, bah, j'ai continué à évoluer. Après, Twitch a évolué aussi, ma chaîne a évolué, mes envies ont changé. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais un fantasme qui était de lancer un talk show, mais surtout, je voulais un grand talk show. Pas juste un talk, parce que j'ai déjà fait un talk très petit comité, limite podcast. Je l'ai déjà fait. Non, je voulais lancer un grand talk show parce que j'estime que le public y a droit. Et pour moi, ce qui compte, c'est le public. Le public que je vise, c'est un public jeune et c'est un public largué. C'est un public éloigné de la politique. Je ne m'adresse pas prioritairement aux militants, aux passionnés, aux mecs comme moi, aux juristes qui ont fait du droit constitutionnel.
Ça, vous trouvez l'info, quoi.
Eux, ils n'ont pas besoin de moi. Mmh. Ils sont déjà intéressés par la politique. Ils ont déjà le virus. Tant mieux, c'est cool. Moi, je vais m'adresser à tous les autres, tous ces jeunes qui soupirent quand tu prononces le mot politique. Et c'est eux que je veux toucher. Et j'estime que ces jeunes-là, ils ont le droit à une émission ambitieuse pour eux, qui leur fasse, qui traite de l'actualité politique avec des chroniqueurs de très très grande qualité, avec des invités politiques de premier plan, de tous les bords, qui viennent parler. Et c'était ça l'idée qui me trottait dans la tête, et ça s'est matérialisé dans le projet Baxit.
Des invités d'exception comme toi.
Ouais.
Il faut bien le dire.
Mais ça, c'est le côté j'aime bien do it yourself, c'est-à-dire que Baxit, ça reste un objet, on fait ce qu'on veut, en fait, on s'en bat les couilles. Enfin, vraiment.
Ok, mais fallait me le dire au début de l'émission, là, parce que.
Non, toi, t'as quand même un job un peu compliqué, c'est d'animer, mais tu t'en sors.
J'avais quand même quelques directives assez précises. Mais non, c'était très cool. Quand t'es parti là en décembre et que t'as pris une pause, une grande pause,
ouais.
Est-ce que tu veux nous dire un
oui,
peu
bien
ce
sûr.
Que t'as fait
je j'ai passé un mois et demi dans une clinique psychiatrique où j'ai été admis à la fin du mois de décembre suite à une dépression, qui est une maladie très spécifique. Et donc j'ai été pendant un mois et demi hospitalisé dans un établissement de santé spécialisé. Où j'ai pu me reposer, me ressourcer, avoir un traitement médicamenteux et un accompagnement psy assez lourd. Et j'en suis sorti ce matin. Donc là, c'est vraiment le jour J de ma sortie de l'hôpital. J'étais ce matin encore à l'hôpital, j'en suis sorti. Et donc, on a fait coïncider pour que je puisse passer une tête ce soir pour vous passer le bonsoir, vous dire que j'étais presque de retour. Je dis presque parce que je ne vais pas pouvoir reprendre le rythme de stream que j'avais avant les vacances, un stream quotidien. Ça, je ne vais pas pouvoir le faire. J'ai encore beaucoup de médicaments. Je suis encore très fatigué. Donc voilà pourquoi vous ne m'avez pas vu pendant un mois et demi.
C'est la première fois que tu t'arrêtes ?
C'est la première fois que je suis hospitalisé pour une dépression. Ça m'est déjà arrivé de faire des dépressions. Il se trouve que je suis atteint d'une maladie particulière qui s'appelle la bipolarité, qui est un trouble qui affecte l'humeur et qui fait se succéder des phases de dépression et de manie ou d'hypomanie, qui est un peu l'inverse de la dépression. C'est des phases d'exaltation. Je rentre pas trop dans le détail, mais c'est cette maladie dont je suis atteint. Et donc, ça fait plusieurs années maintenant que j'ai l'habitude, malheureusement, d'avoir des épisodes dépressifs que je savais plus ou moins bien gérer en fonction des épisodes. Et là, celui-ci a nécessité une hospitalisation.
Est-ce que tu as le sentiment, dans tout ce parcours, d'avant l'hospitalisation, de l'hospitalisation, puis maintenant de la sortie de la clinique, d'avoir eu une prise en charge adaptée ?
Oui, complètement. Complètement. Je suis dans un bien meilleur état que quand je suis rentré à la clinique. C'est pas compliqué, j'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à marcher. Hein. J'étais vraiment dans un état déplorable.
C'était fin décembre,
après la dernière de Baxit, ouais. Et donc j'étais très atteint. Et on a mis en place un traitement médicamenteux qui a remplacé un que j'avais avant. Et ça a mis du temps, parce que c'est normal, ça met du temps ces choses-là, à donner des fruits. Mais à partir du début du mois de janvier, j'ai commencé à être sur une pente ascendante, j'allais de mieux en mieux. Et donc c'est pour ça qu'on s'est mis d'accord avec l'équipe médicale pour une sortie le 1er février.
Bon, en tout cas, nous, on est très contents de t'avoir avec nous. Est-ce que tu anticipais un peu cette sortie?
Oui, j'avais très, très peur de cette sortie, peur de rentrer chez moi. Je stressais pour cet exercice aussi, là, de venir parler de ma santé mentale, parce que ce n'est pas évident, parce qu'il y a encore, parce que c'est personnel, c'est intime, c'est ma santé. Mais c'est aussi, il y a aussi beaucoup de tabous autour des maladies mentales et des troubles mentaux en France.
Beaucoup de stéréotypes aussi.
Beaucoup de stéréotypes, beaucoup de clichés. Et malheureusement, il faut quand même en parler, surtout après ce que j'ai dit sur les jeunes. Un jeune sur deux est atteint de troubles mentaux dans notre pays. On est dans une situation qui s'aggrave d'année en année depuis le Covid. Il y a eu un virage au moment du Covid. On en a un tout petit peu parlé pendant le Covid. Je me souviens d'Emmanuel Macron qui disait c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Et quelques petits dispositifs ont été mis en place, mais les jeunes en France souffrent de maladies mentales. Ce n'est pas acceptable et il faut absolument faire quelque chose. Il y a des choses qui doivent être faites du côté des pouvoirs publics pour débloquer des moyens, pour mettre en place dans les territoires des suivis psychologiques pour les jeunes accessibles. Il y a aussi des choses qui doivent être faites de la part de personnes comme moi qui ont la chance d'avoir une audience. Et c'est, je pense, sans que ce soit une injonction pour les autres, c'est d'en parler. C'est de mettre des mots sur ces troubles et sur cette maladie pour que peut-être que les personnes qui nous écoutent se disent que ça fait écho à ce qu'elles ressentent. Et si ça peut déclencher la prise de rendez-vous chez un psychologue ou un psychiatre, et ben c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'il est important de se faire suivre quand on souffre.
Ça, c'est clair, c'est fondamental. Peut-être une dernière question avant de laisser les chroniqueurs qui ont certainement très envie de te retrouver aussi te poser des questions. Je ne sais pas si tu as suivi un peu le discours de politique générale de Gabriel Attal.
Alors, je suis peut-être le seul connard en clinique psychiatrique qui s'est coltiné l'intégralité du discours de politique générale, l'intégralité de la conférence de presse dans ma chambre d'hôpital. Là, j'avais l'air fier. Hein.
Ça, c'est mon genre, ça.
Je suis vraiment ravagé. Hein.
Jusqu'au
en même temps, j'avais que ça à foutre. En même temps,
le pire, c'est les gens qui avaient d'autres trucs à faire et qui se sont dit, bah tiens, je vais quand même regarder.
Oui, c'est vrai.
Genre, je suis visée. Ouais, vraiment chez moi.
Non, mais je l'assume. Avec les pop-corn et tout. Donc bref, Attal a fait des annonces spécifiques, très peu certes, mais il a parlé spécifiquement de
la santé mentale des jeunes
lors de son discours de politique générale. Comment toi tu as accueilli cette prise de parole, je me bats avec le micro, et les annonces faites?
Oh, écoute, j'en sais trop rien parce que j'avoue que je ne me suis pas plongé dans le dossier de santé publique, de la santé mentale des jeunes. C'est très spécifique, la santé mentale. Je sais que les professionnels de ce secteur crient au manque de moyens. Je sais que les patients crient à la difficulté d'avoir un rendez-vous dans des... Enfin, je veux dire, quand on fait un épisode dépressif, par exemple, on a parfois besoin d'un rendez-vous en urgence, c'est-à-dire dans les 48-72 heures qui viennent. Parfois, ça va jusque-là. Et on a dans des territoires des gens, et notamment des jeunes, qui disent que le premier rendez-vous, il est dans 5-6 semaines. On ne peut pas attendre 5-6 semaines quand on est dans cet état-là. Il existe les centres médico-psychologiques, heureusement, dans les territoires qui sont là pour vous accueillir. Il y en a un à côté de chez vous. N'hésitez jamais à vous tourner vers votre centre médico-psychologique. Ils sont débordés, ils n'ont pas assez de moyens. Donc voilà, je sais qu'il y a un besoin de moyens. Je ne sais plus ce qu'a annoncé Gabriel Attal. Est-ce qu'il a annoncé plus de moyens ?
Il a annoncé une meilleure prise en compte de la santé mentale avec la mise en place notamment, enfin, l'élargissement des maisons départementales des adolescents, le généraliser à tous les départements.
MDA, bien,
Il n'a pas dit que c'était grande cause nationale ?
Non, grande priorité du gouvernement, moi j'ai noté.
Ah oui, c'est ça.
Après, c'est jamais bon signe quand il dit ça.
Il y en a 27 des priorités du gouvernement, mais en tout cas, ça en fait partie, ouais.
Mais oui, non, en tout cas, c'était pas forcément très précis et rassurant sur l'état de la médecine, notamment en France.
Non, clairement, je pense qu'il fallait une prise de parole politique forte sur ce sujet, et Gabriel Attal a annoncé des choses. On verra ce qu'il fera.
Latifa, Emilien, Malek, vous avez des questions pour notre invité de prestige?
Déjà, dire à Jean que je suis content de le retrouver. On s'est vu juste avant.
Ouais, ça fait plaisir de te voir, mec.
on s'est vu en décembre et je hors émission. Et je voyais bien que t'avais besoin à ce moment-là d'être aidé. Et je suis content de te retrouver dans ce meilleur état.
Ouais, c'est cool.
Petite question. Qu'est-ce qui. Alors, comment on vit en fait cet arrêt en fait, parce que t'as dû aussi renoncer à du coup. Ces streams quotidiens,
ouais.
Ça générait peut-être une pression, un stress, je sais pas, je pose la question. Est-ce que Bah voilà, ton ressenti, ouais, par rapport à tout ça. Voilà. Comment, oui, ça, bah... comment ça se passe quand on arrête de streamer et que, alors, et qu'on prend cette bonne décision aussi de prendre du temps pour soi, pour être hospitalisé, pour prendre soin de sa santé mentale?
Bah, c'est pas évident, surtout quand ça fait 8 ans qu'on stream. Mm-hmm. Ça fait 8 ans que c'est mon activité professionnelle, que c'est quasi quotidien. C'est quelque chose de pas tout à fait facile. En même temps, j'ai ressenti le besoin de mettre en priorité ma santé et de dire et d'assumer surtout en mettant des commentaires sur quelques réseaux sociaux pour dire que j'allais être hospitalisé et que j'allais m'arrêter pendant plusieurs semaines. À l'époque, je savais pas encore combien de temps ça allait durer. C'est vrai que c'est compliqué. Nous, les créateurs de contenu, on est nombreux à avoir des troubles mentaux aussi. Ça, je le tire de mon expérience de 8 ans à traîner dans le milieu, à discuter avec les gens. C'est souvent le sujet de conversation entre deux youtubeurs qui se croisent. Comment ça va, toi? Genre vraiment, mec, comment tu te sens? Parce que voilà, les créateurs de contenu, les créatrices de contenu sont nombreuses et nombreux à ressentir des troubles anxieux, de la dépression, des trucs comme ça. Donc je suis le premier témoin de ça. Il y a aussi une difficulté financière à ne plus produire, parce que moi, mes revenus viennent prioritairement des abonnements Twitch. Or, quand tu ne streames pas sur Twitch, les gens ne renouvellent pas leur abonnement. Donc là, j'ai divisé mes revenus par 3 juste parce que pendant un mois et demi, j'étais pas chez moi. Donc j'en profite pour remercier les personnes qui ont renouvelé leur abonnement ce soir. Donc oui, effectivement, il y a une pression à streamer, il y a une pression à être dans l'actu et tout. Et en même temps, je me suis senti bien dans cette clinique psychiatrique parce qu'au moment justement où il y avait le remaniement, la démission d'Elisabeth Borne, Gabriel Attal, etc., j'étais pas au taquet sur mon portable à lire tous les articles comme je le fais d'habitude. Je me sentais plus distancié et du coup c'était mieux en fait. Putain, pour une fois la politique, j'ai mis de la distance entre la politique et moi. Je me suis limité à un article par jour, c'était mon grand maximum de pas plus d'articles.
Du coup, t'avais choisi quel canard?
Le monde en général, c'est Le Monde, les articles abonnés du Monde qui font d'assez bons points et compte rendu. Donc voilà. Donc, effectivement, une pression singulière sur le fait de créer des contenus. Et là, je ressens pas trop la pression, donc je vous l'annonce, je suis pas encore de retour, je vous le redis, je suis pas encore de retour quotidiennement. Je ne sais pas si je serai en état d'animer l'émission Backseat de jeudi prochain. On verra. Puis on prendra une décision en fonction de mon état. Et mes streams reprendront quand ils reprendront. Et je sais pas encore quand. La priorité, c'est ma santé.
Latifa?
Oui, non, mais j'allais dire, c'est pas une question, mais une observation.
J'adore. Ouais, vas-y. Oui, vas-y, je t'en prie.
Non, mais c'est parce que c'est jamais...
Le monsieur au fond de la salle, généralement, c'est...
Alors, je te coupe, Latifa, il y a quelqu'un qui vient d'offrir 100 subs, et merci.
Quoi, wow, t'es sérieux?
Je te promets.
Ouais, c'est ce que, en fait, j'étais stabilisée par ça.
100 subs qui vient d'être offert à l'instant, et mega boss. GG, bravo. Bah,
merci beaucoup pour ces 100 subs offerts au chat, c'est super généreux, c'est gentil pour moi, c'est gentil pour le chat aussi. Du coup, il y a 100 nouveaux subs dans le chat, bienvenue à vous.
Non, c'est welcome. Cool.
Pardon, excusez-moi.
Ouais, excuse-moi,
pardon,
Latifa.
Non, mais ouais, t'as raison, je regarde, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, bah déjà, c'est, oui, ça fait plaisir de te retrouver, Jean, et aussi que c'est pas... Enfin, bravo de réussir à en parler devant ouais. Les personnes qui regardent, devant nous ici, et les personnes présentes, c'est jamais simple. Et c'est vrai que, ouais, il y a une... Au-delà de ce tabou, en fait, sur la santé mentale qui existe, il y a aussi une réelle difficulté à trouver les bons soignants ou à trouver les soignants même. On parle, t'en as parlé sur les déserts médicaux, etc., ou le temps d'attente, le fait de savoir de ne pas savoir où se diriger, comment le faire, etc., quand on relève quand c'est une pathologie, et même quand c'est pas le cas, en fait, pour juste de la santé mentale, qui sont des choses qui handicapent moins dans la vie, mais qui sont quand même dans la tête de tout le monde. Et c'est vrai que ouais, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué pour les gens, parce que ça isole en plus, et ça rajoute beaucoup de difficultés pour trouver des bons soignants, et même de manière générale, c'est extrêmement difficile, ne serait-ce que de trouver un bon psy, pour les gens qui ont déjà tenté l'expérience, entre guillemets, mais ça prend énormément de temps. Et j'ai d'ailleurs une psy qui s'est déjà endormie pendant que je lui parlais.
Wow. Ah ouais, c'est pas mal ça. Tu l'as payé quand même ou...
Est-ce que t'es partie?
J'ai dit, ma vie est chiante à ce point. Même les traumas sont chiants. Mais en vrai, pour être sérieuse, c'est vraiment très, très compliqué de trouver les bonnes personnes. Et en fait, si ça pouvait ne plus être un tabou, c'est surtout ça. Et après, c'était une question plus légère, parce que j'ai vu sur Threads que tu dis qu'il y avait vraiment un bouquin de Bernard Tapie.
Oui, à la bibliothèque, ah oui, à la bibliothèque de la clinique où j'étais, il y avait un bouquin de Bernard Tapie
pour
qui s'appelait Gagner, je crois.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Et c'était, ben, tous les bouquins dans la bibliothèque étaient poussiéreux. C'était que des trucs des années 70, 80, tout jauni et tout. Et dans le tas, j'en ai trouvé un sur Bernard Tapie et j'étais en mode, c'est énorme. Bien sûr que non. Chose à foutre. Non, mais t'as raison sur le tabou sur la santé mentale, c'est important parce que dans les familles notamment, il y a beaucoup de jeunes dont les parents tiennent un discours sur la santé mentale. Par exemple, le mot que j'ai prononcé tout à l'heure, psychiatrie. Psychiatrie est un mot qui fait peur. Il y a des gens pour qui ça renvoie à la folie, ce qui n'est pas vrai. La psychiatrie est une spécialité de médecine qui renvoie à l'ensemble des troubles du cerveau. Il y a des gens pour qui clinique psychiatrique, ça renvoie à un imaginaire d'asile et surtout d'asile des années 50 aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de films et de productions qui ont été faits comme ça. Il y a beaucoup de méchants dans les mangas ou dans les machins qui viennent d'asile. Tu vois, le Joker, très bon exemple. Le Joker à Gotham City, dans cet asile de fous, etc. Donc tout cet imaginaire autour de la folie, de la psychiatrie sous contrainte.
Vol au-dessus d'un nid de coucou, oui.
Avec
Jack Nicholson, Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Vol au-dessus d'un nid de coucou, très bon exemple aussi. Ah, voilà, complètement. On est dans un imaginaire cinématographique. Ce n'est pas ça. Ça ne ressemble pas à ça, une clinique psychiatrique. Il existe de l'hospitalisation sous contrainte. En France, ça existe. Il y a des gens qui sont hospitalisés contre leur gré pour leur protection et pour la protection de leur entourage. Mais il existe aussi des cliniques psychiatriques comme celle dans laquelle j'étais, qui est en hospitalisation libre, comme on dit. Donc il n'y a aucune contrainte, il y a oublié tout ce qui est camisole de force, camisole chimique, etc. Tout ça, c'est du fantasme, c'est de l'imaginaire. Voilà. La psychiatrie, vraiment, si vous ne vous sentez pas bien, malgré le discours de vos proches qui vous disent « tout ça, c'est dans ta tête », il y a aussi un renvoi aux états d'âme. Mm. « Oh, mais tout ça, beaucoup d'injonctions, et on l'a vu tout à l'heure avec Adèle qui a refait un clin d'œil à ça, de Thibaut InShape, « rien à foutre de ta dépression, ouais. Il suffit de sortir, t'aérer l'esprit et ça ira mieux.
Ouais, » Tu lui réponds quoi ?
Fais du sport, ma grande. C'est le grand classique. Ouais, quoi. Ouais. Bon, non, ces discours-là sont malheureusement néfastes. Il ne faut pas tenir ces discours-là. Il faut plutôt avoir une posture d'écoute. Ouais. Et il faut surtout renvoyer vers des professionnels de santé qui existent, des médecins psychiatres et des psychologues diplômés. Ce sont les personnes qui sont les plus à même de vous accompagner.
Précisément là-dessus, il y a toute la question du diagnostic. Ouais. Avec la question de l'accompagnement, tu disais aussi, Latifa, à juste titre, que ça peut être très long que d'arriver à trouver la bonne personne, le bon traitement, mais aussi de comprendre ce qui t'arrive.
Bien sûr, non, mais ça prend énormément de temps. Moi, la bipolarité, elle m'a été diagnostiquée il y a 3 ans. Je suis encore dans un processus d'apprentissage de ce que ça veut dire vraiment, de ce que ça implique, de quel effet ça a sur moi. Et malheureusement, tu parles de diagnostic, il y a malheureusement un retard diagnostique en France. J'avais lu, je ne sais plus où, qu'on estime qu'un diagnostic de bipolarité, ça met 10 ans à être posé, en moyenne. Donc c'est voilà, 10 ans à subir les effets d'une maladie dont on n'a pas le nom, dont on ne sait pas ce qu'elle est et dont on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. On résiste aux antidépresseurs, on ne comprend pas pourquoi. On fait dépression sur dépression, on a des phases maniaques ou hypomaniaques. Enfin bref, c'est très très dur. Moi, ça a mis, je crois, 10 ans. Si je calcule bien entre l'apparition des premiers symptômes et le moment où on a posé un diagnostic de bipolarité, je crois que ça fait 10 ans. Donc voilà, je me rends bien compte de ce que c'est. Je me rends bien compte de ce que c'est. Ce retard diagnostique est difficile. Je rappelle, puisque on est dans une mission de service public, je rappelle que seul un médecin psychiatre est à même de poser un diagnostic. Attention, malheureusement, il y a beaucoup de charlatans sur Internet, de gens qui vous veulent pas du bien, qui veulent votre pognon.
Et les autodiagnostics aussi.
Alors, les autodiags, ça a son intérêt quand même parce que ça permet aux gens de réfléchir et de s'interroger sur ce qu'ils et elles ressentent. Néanmoins, je recommande d'aller voir un ou une professionnelle de santé dont c'est le métier.
Tous les coachs là, en développement personnel, on est fatigués. Ma grand-mère a travaillé 40 ans en psychiatrie, donc elle écoutera cet extrait et elle sera très contente. Tous les coachs en développement personnel, je vous emmerde. Voilà, comme ça, vous le savez.
Non, mais c'est vrai que c'est un fléau, hein, ça, sur les réseaux, vraiment. Sur Instagram, etc.
Je n'en peux plus.
Thérapeute, mais on ne sait pas de quoi, comment, enfin...
Non, mais c'est vrai.
Ça montre que la santé mentale est vraiment un enjeu. C'est parce que les politiques publiques et les politiques aussi s'en emparent pas suffisamment et qu'il n'y a pas ces dispositifs mis en place sur lesquels on communique, notamment mon parcours psy, je crois, ou des choses comme ça, enfin, qui existent. Mais en fait, ça met tellement de temps et c'est tellement bureaucratique parfois que ça laisse la place à plein d'initiatives privées. Ou comme tu as dit, parfois, c'est juste des charlatans ou des gens qui vont dire tu manges bien, tu as fait du sport, et pour poser la base du truc, quoi.
Non, non, et puis voilà, on va pas se mentir, hein, sur Internet, sur Twitch, sur Instagram, on a tout ce qu'il faut comme coach en développement personnel, comme tu dis, voilà, le développement personnel, malheureusement, c'est souvent un nid à retard diagnostique pour des personnes qui... Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait compréhensible de lutter contre sa maladie en lagnant, en essayant d'aller contre elle, en essayant de se développer,
en essayant
de se
mettre d'aller au sport. Mieux, quoi, tout simplement.
Ouais, en essayant d'aller mieux, et il y a absolument pas de mal à essayer d'aller mieux, même si parfois on perd du temps dans des arnaques et des charlataneries.
Malheureusement, on arrive presque au terme de cette discussion, mais quand même, Emilien, qui n'a pas eu l'occasion de trop parler, a une question pour vous, cher invité.
Moi, j'ignorais pour la bipolarité, je trouve que c'est courageux d'en parler, combien même c'est juste... voilà, il y a des personnes qui sont bipolaires, ça se traite, on n'en sort pas vraiment, mais en tout cas, on peut arriver à vivre tout à fait normalement avec ça. Mais je savais pour la dépression, parce que tu avais fait une vidéo avec la chaîne Dans ton corps.
Julien Méniel, ouais.
Et je me permets un tout petit flex. Je le savais à moitié parce que, en fait, mon frère a travaillé pour toi du temps d'Acropolis.
D'accord, je vois qui c'est.
Voilà, il s'appelle... Énorme. Je salue Raphaël.
On embrasse Raphaël très fort, oui.
Voilà. Qui est toujours dans le milieu du visuel. Et donc, ouais, je savais qu'il y avait des petits hauts et des petits bas. Et forcément, moi, qui savais que, donc, quelle avait été ta carrière avant, je me posais la question, je me disais, est-ce que quand même le milieu, évidemment, t'en étais sorti, mais des collaborateurs politiques avec les horaires de fou, les tâches, les charges, le contrôle qui est souvent pas génial, même s'il s'améliore un peu. Voilà. Est-ce que, je dis pas que c'est un nid à problème, mais si. Et que ça a un rapport avec toi, mais est-ce que c'est pas, est-ce qu'il n'y a pas un sujet?
Il y a un sujet.
Y compris chez les politiques eux-mêmes, peut-être.
Oui, complètement, il y a un sujet. La politique broie des hommes et des femmes. J'ai l'habitude de dire que moi, j'ai quitté la politique avant de devenir cynique, ce qui est une jolie manière de dire, en fait, avant d'en souffrir trop. J'ai vu des hommes et des femmes sombrer, mais totalement sombrer, arrivé à l'âge de la trentaine, après 10 ans en cabinet, en élu local, à complètement burner, sombrer dans l'alcoolisme, etc. J'en ai vu, j'en connais. La politique est un milieu violent. Il y a de la violence dans le quotidien de la politique, que ce soit dans les luttes qu'on mène en tant que politique, que ce soit dans les mots qu'on utilise, que ce soit dans la pression que l'on se met ou qu'on met aux autres, il y a de la violence. Et ce n'est pas un mal en soi. Je défends la politique comme étant une sphère de conflictualité. Je ne suis pas pour le ni de gauche et de droite, ou ni de gauche ni de droite, où tout le monde se fait des bisous, etc. Non, je crois qu'il y a de la conflictualité dans la société, qu'il y a donc de la conflictualité en politique. En démocratie, c'est naturel. Ceci étant, est-ce que vous êtes capable de me citer le nom d'un ou une politique nationale qui assume une maladie mentale? Moi, j'en connais pas.
Non.
Je ne connais que des gens qui se vantent dans les journaux de ne dormir que quelques heures par nuit. Parce que vous comprenez, moi, je suis à ma tâche, 24 heures sur 24. C'est ces petites phrases que disent les ministres ou les secrétaires d'État dans les interviews qui montrent qu'il y a un problème maladif de la surperformance et que notre politique fabrique de la douleur. Et je le vois chez les militants aussi. On peut parler du mal-être militant aussi. Il est très dur. Ouais. Le burn-out bien militant, sûr. Que ce soit les militants pour la paix avec le conflit israélo-palestinien qui vivent assez mal ces derniers mois, les militants pour le climat, les militants pour la justice sociale, les militants dans les quartiers contre les violences policières. Il y en a beaucoup qui souffrent aussi parce que le militantisme, parfois, amène... alors, il a son lot de toxicité, notamment sur Internet, mais malheureusement, cette toxicité, elle est souvent le symbole d'un mal-être. Donc, la politique est un lieu qui, malheureusement, fabrique de la difficulté en matière de santé mentale, et je le déplore. Et si je peux aider à ma petite échelle, je le ferai.
Merci beaucoup, Jean Massier.
Merci,
invité
Léa.
Hors-pair.
Et bravo pour cette animation ce soir.
Bah, écoute, merci de m'avoir laissé les clés de la baraque. Encore une expression de merde. Quelqu'un pourra les lister, s'il vous plaît, en peu près, et aller chercher les significations, parce que vraiment, je suis largué. Oui, c'est ça, le poudre, le perlin, pimpin. C'était pas une
question. Je demande à
même
de faire un clip de toutes les phrases qui ont été prononcées ce soir. C'est légendaire.